L'UNEP, les entreprises du paysage et plateforme.garden vous présentent Alerte Bioagresseur.
La nouvelle série podcast à découvrir chaque mois dans le fil d'actualité de votre application
et sur les plus grandes plateformes d'écoute.
Alerte Bioagresseur, un podcast qui vous aide à trouver les solutions face aux maladies et ravageurs que vous rencontrez sur vos chantiers et à adopter les bonnes pratiques.
Alerte Bioagresseur, le podcast qui fait de vous
un véritable expert.
Ce podcast vous est offert par le SVP Bioagresseur de l'UNEP,
les entreprises du paysage
et l'app des pros du végétal,
plateforme.garden.
Bonne écoute.
Bonne écoute.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast, ce nouvel épisode d'Alerte Bioagresseur. Aujourd'hui, nous allons vous parler des acariens qui infestent divers végétaux et nous sommes bien sûr en compagnie de Barbara Dekeyser. Nous aborderons les acariens du tilleul, des agrumes, du buis, du lierre, ainsi que les galigènes. Nous parlerons également du dollar spot et du sclérotinium rolfsi, deux maladies estivales des gazons. Découvrez les symptômes de ces attaques, les facteurs de prédisposition et les stratégies de gestion pour contrôler ces acariens. Bonjour Barbara.
Bonjour Jérôme, bonjour aux auditeurs.
Alors nous sommes ravis de vous retrouver Barbara en ce beau mois de juin. Quels sont les principaux acariens qui affectent les tilleuls, les agrumes, les buis, le lierre? Et quels sont les symptômes caractéristiques?
Alors les acariens sont évidemment la famille des arachnides, donc on n'est plus dans les insectes. Il y a plein d'acariens différents. Souvent, ceux qui préoccupent, qui font des dégâts au niveau du feuillage, sont des acariens, ceux qu'on appelait les araignées rouges. On les soupçonne très souvent et on leur impute très souvent les dégâts parce que c'était assez facile devant un néophyte de dire c'est des araignées rouges, ça, je reconnais bien les symptômes. Mmh. En réalité, l'acarien, il est essentiellement présent à partir de juin et c'est pour ça qu'on a décidé de parler de lui aujourd'hui. Donc effectivement, on a des dégâts qui sont assez similaires d'une plante, qu'elle soit caduque ou persistante, avec des petites taches minuscules jaunes qui correspondent à des cellules végétales vidées de leur contenu par l'acarien lui-même. Et ces petites taches jaunes, quand elles se répartissent sur tout le feuillage, lui donnent une couleur bronzée. Pas dans le sens bronzé, j'ai été à la plage et je suis bronzé, bronzé dans le sens du métal et donc de cet aspect un petit peu... Pardon ?
Brillant, argenté, non ?
Argenté, brillant, avec un reflet doré sur le feuillage. Donc on va retrouver ces symptômes caractéristiques sur l'hierre notamment, on va le retrouver sur le buis, avec de loin une décoloration du feuillage et puis de près ces toutes petites taches jaunes, quelquefois en ligne. On va le retrouver sur tilleul également, donc sur des plantes, des feuillages caduques.
Et Barbara, est-ce que le stress hydrique affecte la sensibilité des végétaux aux acariens?
Oui, tout à fait. Alors l'acarien, il préfère des végétaux stressés et des végétaux en manque d'eau. On n'a pas forcément établi pourquoi. On se pose la question si c'est lié à la réverbération, si c'est lié... En tout cas, l'acarien, ce sera toujours en situation chaude qu'on le retrouvera dans les jardins. Donc, il n'y a pas d'acarien en automne. C'est rarement un problème d'automne, sauf dans les zones couvertes, c'est-à-dire les plantes éventuellement qu'on rentre en hivernage, qu'on rentre en véranda, comme certains agrumes par exemple. Là, on peut avoir des acariens en hiver, mais parce qu'on est en atmosphère chaude. Et l'acarien, sa prédilection, c'est vraiment l'été. Il lui faut une ambiance la plus sèche possible, parce que finalement, même des gouttelettes de rosée, pour lui, c'est l'équivalent de piscine. Et donc, il peut très bien se noyer dans des gouttelettes posées sur les feuilles. Donc, il lui faut vraiment une ambiance très sèche pour se plaire.
C'est aussi finalement un moyen de se rendre compte qu'on arrose pas assez.
Eh ben, en tout cas, une des luttes contre les acariens, une lutte extrêmement facile à mettre en œuvre, c'est le bassinage, c'est-à-dire effectivement doucher les végétaux, doucher le feuillage, qu'on va faire tomber au sol ces minuscules araignées et que vu leur taille, ben, le temps qu'elles remontent dans l'arbre, il y a assez peu de chances qu'elles y parviennent. Donc en fait, on a une méthode de lutte assez simple, c'est doucher les végétaux. Et les étés pourris, ben, on a très peu de problèmes d'acariens, évidemment. Quand on a de la pluie régulièrement, ben, une bonne averse orageuse, ça chasse les acariens. C'est pour ça aussi que très souvent, il faut regarder sur la face inférieure des feuilles, les acariens. Ils sont beaucoup plus présents en face inférieure parce qu'ils sont protégés justement des impacts d'eau.
Et y a-t-il d'autres méthodes de lutte préventive et curative ?
Eh bien, évidemment, puisque les plantes stressées en manque d'eau sont plus atteintes, ben, évidemment, arroser correctement les végétaux fait partie des méthodes culturales. Et puis, contre les acariens, le plus efficace, c'est de travailler avec d'autres acariens, des acariens prédateurs. Parmi eux, il y a des phytocéilus, il y a des amblycéus. Il faut cibler l'acarien. L'acarien prédateur, il est souvent plus gros que l'acarien phytophage et on va l'installer très souvent dans des petits sachets d'élevage qu'on va fixer directement dans les végétaux. Évidemment, ces acariens sont les mieux dimensionnés, ces acariens prédateurs sont les mieux dimensionnés pour gérer les acariens. Il faut toujours, évidemment, anticiper avec la lutte biologique et mettre en place ces acariens prédateurs au début de l'attaque des acariens, au moment où, en détachant une feuille, on observe clairement ces premières petites taches jaunes. Une fois que le feuillage commence à tomber, ce qui est souvent le cas lorsqu'il y a vraiment beaucoup de piqûres, là, il est un petit peu tard pour envisager ces méthodes de lutte-là et on travaillera utilement avec des huiles végétales ou des huiles minérales pulvérisées sur le feuillage, bien en insistant bien sur face inférieure, face supérieure des feuillages.
Très bien, c'est très riche en informations et j'invite les auditeurs, puisque grâce au podcast, ils vont pouvoir bien sûr écouter, réécouter l'ensemble des informations que vous délivrez, qui sont nombreuses, mais toutes importantes, toutes intéressantes à connaître.
Dans les acariens, il y a aussi ce qu'on appelle les phytoptes. En général, ils n'ont pas l'aspect des autres, des acariens classiques, où on a souvent un entoilement présent en plus des petites formes mobiles minuscules. Les phytoptes, eux, ils créent des galles. C'est pour ça qu'on appelle ça des acariens galligènes. Alors, ces galles, elles ont des aspects très différents d'une espèce à l'autre. Et souvent, ce sont des feutrages comme un velours sur les faces inférieures de feuilles. On retrouve régulièrement les phytoptes sur les chênes verts, par exemple. On va les retrouver également sur la feuille de vigne, où on va avoir ces plages de velours, quelquefois sombres, bruns, qui sont finalement des pouponnières aux larves d'acariens. Alors déjà que l'adulte d'acarien est tout petit, la larve, vous imaginez qu'elle est encore plus petite que l'adulte. Du coup, elle va se retrouver dans cette sorte de forêt de poils et être complètement à l'abri des prédateurs de cette façon-là. Donc là, on est vraiment sur des acariens très particuliers qui font partie de la même espèce. Pour eux, puisqu'il y a cette forêt de poils qui les protège, les huiles sont moins intéressantes et curieusement, on pourra travailler avec des pulvérisations de soufre qui seront utiles.
Barbara, pouvez-vous nous présenter des méthodes de lutte contre l'odium sur les érables du Japon, les euchères, les rosiers, les berberies et les lauriers-palmes ?
Alors déjà, on va parler des symptômes des oïdiums parce que le symptôme, il est assez basique. Globalement, on imagine toujours un feutrage blanc. C'est vraiment le classique. Du reste, le nom le plus commun de l'oïdium, c'est un blanc des feuillages. La particularité de l'oïdium, c'est quand on n'a plus vraiment ce feutrage blanc, ou en tout cas qu'il n'est plus aussi visible. Et là, en général, il va causer des crispations du feuillage, des déformations du feuillage. Il va aussi avoir un impact sur les boutons floraux et il pourra très facilement conduire à l'avortement des boutons floraux. C'est le cas notamment sur rosier, ça va être le cas sur l'agerstromia. L'oïdium, sa particularité, c'est qu'il a besoin de jeunes tissus pour se développer. Alors, sur des rosiers qui vont produire en permanence des feuilles, c'est assez simple. Sur des lauriers palmes, où on a une production de feuilles après la taille, c'est un fait qu'il faut intégrer parce que, évidemment, on se rend compte que ce sera une potentielle solution pour lutter contre l'oïdium. Alors, votre question, Jérôme, elle portait sur la lutte également. Et donc, la lutte, c'est la taille fait partie de la lutte. Supprimer les branches les plus oïdiées. Quelquefois, on a même des traces d'oïdium et on retrouve le feutrage sur les rameaux eux-mêmes. C'est le cas sur rosier notamment. Les couper au sécateur, ça permet évidemment de réduire la présence de ce bioagresseur. Derrière, on va également travailler le plus possible au début de l'attaque avec des produits comme le soufre et la bouillie bordelaise. On a également des bons résultats avec l'hydrogénocarbonate de potassium. À chaque fois, ce sont des produits qui sont très lessivés par les pluies et donc dont il faut renouveler l'application. Très souvent, c'est notamment parce que le feuillage le fait ressortir, tous les feuillages rouges, et c'est pour ça que sur l'érable du Japon, c'est souvent marquant. C'est également le cas sur les berbéris, les œufs chers, on va avoir les érables également, on va avoir un marquage très visible de l'oïdium sur feuillage. Donc on retient bien ce qui permet à l'oïdium d'être particulièrement installé, d'être particulièrement virulent, c'est la présence de jeunes tissus. Et donc, failler tardivement est toujours opportun. Des oïdiums, notamment sur laurier palme, qui sont même perforants, c'est-à-dire qu'à terme, la crispation du feuillage est telle qu'on va avoir une nécrose locale et que le tissu desséché va tomber, va disparaître, et donc on va avoir un trou dans le feuillage. Et donc, ces oïdiums-là, c'est la conjonction d'un temps relativement chaud et humide et de la présence de jeunes tissus. Donc, retarder le plus possible les tailles de laurier palme, c'est relativement intéressant, les faire à partir de fin juin pour ne pas avoir de pousses, de jeunes pousses de laurier palme sur la période printanière et automnale où on va avoir ces conditions climatiques favorables d'humidité et de température relativement élevée.
Et comme à notre habitude, Barbara, nous allons aussi nous intéresser au gazon. En ce moment, on entend beaucoup parler de dollar spot et des sclérotinium rolfsi, les symptômes de ces maladies et les solutions que l'on peut apporter en termes de prévention.
Alors, sclérotinium rolfsi, c'est quand même relativement rare en dehors des terrains de sport ou des gazons vraiment de haute qualité. Mmh. Malgré tout, tous les deux sont des sclérotinioses. Donc, le dollar spot, qu'on appelle également sclérotinia, la sclérotiniose estivale, a la particularité de faire des toutes petites taches. C'est pour ça qu'on parle de dollar, ça ressemble à une pièce de dollar posée sur le gazon. Ça fait des petits ronds de 2 à 5 cm. Quand ils peuvent quelquefois converger, quand ils sont relativement au maximum de leur taille, ils vont faire 15 cm de diamètre. Et on a comme ça une multitude de petites taches en rond sur notre gazon. Avec sclérotinium rolfsi, là on va avoir une forme en anneau avec... En général, l'extérieur de l'anneau, enfin l'extérieur, une partie centrale un petit peu plus verte que le pourtour de l'anneau. Dans les deux cas, on a une zone entre la zone atteinte et la zone saine relativement bien délimitée, avec un gazon qui est presque plus vert sur le pourtour de la présence de la maladie. Avec dollar spot, comme avec rolfsi, on va sclérotinia rolfsi, on va avoir un gazon qui lui dépérit complètement, c'est-à-dire que sans action, sans réengazonnement, sans scarification, défeutrage, etc., on n'a pas de repousse du gazon. On va avoir une zone pelée, potentiellement pelée durablement. Donc là, c'est un vrai souci et ça nuit évidemment considérablement à l'aspect esthétique du gazon. C'est pour ça que là, il faut anticiper. Et comme souvent, un gazon en bonne santé est moins sujet aux maladies. L'arrosage est extrêmement important et donc on veillera dans les deux cas à ne pas avoir d'arrosage trop tôt dans la nuit où du coup, on va laisser une atmosphère humide autour des brins de gazon plus longtemps. Donc, on arrosera plutôt en fin de nuit, avant le lever du jour, pour qu'il y ait l'ensoleillement sèche les brins de gazon et qu'on n'ait pas un maintien d'humidité trop long. On veillera évidemment à avoir une fertilisation adaptée, pas trop d'azote, éventuellement des apports en potassium qui peuvent être intéressants contre les maladies fongiques. On a également un certain nombre d'engrais retard qui sont à base de soufre, et donc avec un intérêt sur la régulation de ces bioagresseurs. On veillera à défeutrer, on veillera à scarifier, on veillera à tondre avec des outils de tonte régulièrement réaiguisés, régulièrement désinfectés, pour éviter de transférer les maladies sur le site ou d'un site à l'autre. Dollar Spot et Sclerotinium sont des bioagresseurs extrêmement généraux. Ils mangent beaucoup d'espèces de graminées, mais on dira qu'en général, la fétuque rouge et la grostide, ainsi que Zoysia et Poa, sont plus sensibles au Dollar Spot, quand la grostide, le pâturin, le cynodon sont un petit peu plus sensibles que les autres au niveau de Sclerotinia rolfsi. En tout cas, évidemment, bien faire le choix des semences adaptées au contexte du gazon, c'est évidemment extrêmement pertinent et utile. Et j'ajouterais qu'il faut aussi penser à tondre un petit peu plus haut qu'on en aurait, que les clients ont peut-être le souhait. Ça a beaucoup d'intérêt au niveau de la biodiversité et ça a souvent un intérêt positif pour les graminées qui, étant moins stressées avec plus de longueur, sont plus résistantes à ces bioagresseurs-là.
Très bien. Et rappelons-le, vous parlez de prévention, Barbara. Sachez que sur l'application Plateforme Garden, vous avez la fonctionnalité Giardia Alert qui vous permet d'être informé, d'être alerté des différents bioagresseurs présents autour de vos chantiers. C'est le cas, en l'occurrence, là, dernièrement, de Dollar Spot qui sont signalés partout en France. Donc, n'hésitez pas à user de cette fonctionnalité, soit pour être alerté et prévenu, soit pour prévenir vous-même vos confrères sur le terrain. Ça sert aussi à ça, la communauté. N'hésitez pas à en faire usage, vous l'avez vu, ça peut vous éviter d'avoir des problématiques gazon importantes en prévenant, juste en faisant les bonnes opérations au préalable. Merci beaucoup Barbara pour toutes ces informations. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode sur les acariens et les maladies estivales. Nous espérons que les informations partagées vous aideront à mieux comprendre ces problématiques et à mettre en place des stratégies de gestion adaptées. N'hésitez pas à nous rejoindre sur l'application Plateforme Garden ou à interroger Barbara Dekeyser directement sur l'application au travers du SVP bioagresseur que vous pouvez retrouver derrière les fonctionnalités Giardia Alert et Coach. Nous vous disons à très bientôt. Rappelons-le également, ce podcast vous est offert par l'UNEP, le SVP bioagresseur de l'UNEP, en partenariat avec Plateforme Garden. Nous vous disons à très bientôt, Barbara.
À bientôt, Jérôme. À bientôt,
merci
les auditeurs.
À vous. Merci.
Vous rencontrez un problème de bioagresseur sur vos chantiers ?
Interrogez directement l'expert UNEP sur l'application plateforme.garden.
Ce service est réservé aux adhérents UNEP.
Ce podcast vous a été proposé par le SVP bioagresseur de l'UNEP,
les entreprises du paysage
et l'app des pros du végétal, plateforme.garden.
Plateforme.garden.